let it pour, let it rain a whole lot more, 'cause I got them deep river blues. Let the rain drive right on.
Bonjour à tous et bienvenue sur cette quatrième émission dédiée à la pêche des rivières et des hommes, avec aujourd'hui Fabien Caterina, bénévole de la PPMA des pêcheurs du Hoguier et guide de pêche. Bonjour Fabien.
Bonjour Sophie, bonjour tout le monde.
Marcel Guita, bénévole de la PPMA des pêcheurs du Hoguier. Bonjour Marcel.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Lucie Bednarek, chargée de mission Natura 2000 et Rivières Sauvages. Bonjour Lucie.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Et Adrien Bertolio, président de la Réciprocité Guier et bénévole de la PPMA des pêcheurs du Hoguier. Bonjour.
Bonjour Sophie, bonjour
Adrien. Alors, cette quatrième émission va donc traiter du label Rivière Sauvage qui arrive à grands pas par chez nous en Chartreuse, et pour cause, puisque vous y avez travaillé quand même depuis plusieurs mois. Donc, Lucie et Adrien, expliquez-nous ce que c'est que ce label Rivière Sauvage et où en est-on de la démarche chez nous ?
Alors, avant de parler du label, on va peut-être parler de qu'est-ce qu'une rivière sauvage. Donc, une rivière sauvage, c'est une rivière vivante, de référence, préservée, qui s'écoule librement et qui accueille dans ses eaux de qualité et sur ses berges une biodiversité exceptionnelle. Et donc, le label, donc, c'est un outil de conservation des rivières qui présente un bon, voire très bon état écologique. C'est un outil qui est non réglementaire et qui permet d'accompagner les acteurs du territoire pour la préservation de leurs rivières, tout en conciliant les activités qu'il y a dans le bassin versant. Donc on peut aussi le voir comme un outil de valorisation des cours d'eau, puisque 1% des rivières en France peuvent prétendre au label. Donc c'est vraiment...
C'est peanuts, c'est pas grand-chose. Alors pourquoi justement le Guier ? Pourquoi le Guier a-t-il pu prétendre à ce label Rivière Sauvage ?
Alors 1% des rivières qui peuvent prétendre à ce label, on a la chance d'avoir le Guier mort, tout simplement parce qu'il a été très peu impacté par la main de l'homme au cours de l'histoire, et qui présente toujours aujourd'hui des qualités morpho-écologiques. Pardon pour le gros mot, mais des qualités morpho-écologiques exceptionnelles, au moins sur une partie.
Alors, quelle partie ?
Alors, le secteur pour lequel on prétend à cette labellisation, c'est le secteur qui part des sources, donc au-dessus de Perquelin, Saint-Pierre-de-Chartreuse, jusqu'aux gorges de Fourvoirie, au tunnel exactement, là où on retrouve le barrage Botta. Voilà. Parce qu'à partir de là, le barrage crée beaucoup trop d'incidence sur le cours d'eau, il n'a plus rien de naturel. Donc dès qu'on passe le tunnel en montant la route, on arrive sur une rivière sauvage.
Vous entrez dans un secteur bienvenue. Rivière sauvage, bienvenue, effectivement. Alors cette démarche a été initiée en partenariat avec l'association Réciprocité Guier, si j'ai bien suivi, et le parc de Chartreuse, Lucie et Adrien toujours.
C'est ça, nous sommes tous les deux co-porteurs. Alors la démarche tu as parlé de quelques mois tout à l'heure, ça a pris bien plus longtemps bien plus longtemps que ça. Les toutes premières discussions autour du label Rivière Sauvage datent d'à peu près 8-9 ans. Et sont apparues à la suite d'un travail qu'a mené Bérangère Serrois, qui a travaillé au parc de Chartreuse et pour le SIAGA également, qui a fait sa thèse sur l'observatoire de l'eau en Chartreuse. Et en réunissant pas mal de paramètres, on a compris qu'on avait une rivière vraiment exceptionnelle sur notre territoire, sauf que personne ne le savait.
N'en parlait à personne.
Voilà.
On a failli
C'était
passer à côté.
C'était un secret.
D'accord. Donc c'est à l'issue des travaux de cette jeune femme qu'on s'est rendu compte. On savait quand même qu'on avait une rivière première catégorie.
Les pêcheurs le savaient déjà.
Mais c'est comme les coins à champignons, on n'en parle pas.
Voilà, c'est ça, on n'en parle pas.
D'accord.
Surtout pas.
Surtout pas. Alors maintenant, on va en parler, pour
c'est
le
ça.
Coup. Alors on va en parler comment ? Par quel biais ? Alors déjà, il faut qu'on ait le label, parce qu'on ne l'a pas encore.
Non, du coup, on est en cours de finalisation du dossier de candidature au label. Donc il y a eu un gros travail de concertation avec les différents partenaires du territoire. On vient de terminer les deux grosses réunions, donc le comité technique et le comité de pilotage qui valident ce qu'il y a dans le dossier de candidature. Et maintenant, donc on va bientôt déposer le dossier donc, qui sera, donc pour obtenir le label qui sera donné par l'AFNOR. Et après, va commencer la mise en œuvre du programme d'action et toute une étape de sensibilisation avec le grand public.
On en parlera un petit peu plus loin, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais donc l'AFNOR doit venir vérifier si par rapport à son cahier des charges, le guet rentre dans les critères requis pour obtenir le label, j'imagine.
Voilà, c'est ça. Il y a Guillaume qui a travaillé au parc pendant une année complète pour remplir une grille de critères qui est ultra complète. Il a mis un an pour la remplir, il a arpenté le guet. Plusieurs fois sur toute la longueur pour définir le nombre de mètres de renouée du Japon, le nombre de mètres de goudron au bord de l'eau, le nombre de mètres de plein de critères différents. Donc ça c'est vraiment très relevé comme label. Et là, on est sur le point de déposer le dossier de candidature qui, on l'espère, devra être obtenu pour notre fête du guet le 27 juillet.
Alors, on parlera un petit peu plus loin de ce qu'on peut attendre d'un label Rivière Sauvage. Moi, j'ai assisté jeudi dernier, donc le 11 avril, à ce que vous appelez un bistrot. J'appelle bistrot, BISTR'EAU, qui était votre deuxième bistrot, qui se déroulait à Saint-Laurent-du-Pont, donc dans le cadre de votre démarche participative. Arrêtez-moi ou complétez-moi si je me trompe, vous interrogiez donc les habitants de Chartreuse, vous présentiez déjà le projet aux habitants de Chartreuse et vous avez ensuite généré un débat, un échange avec eux.
En fait, l'idée, c'était de présenter à la fois aux habitants de Saint-Pierre-de-Chartreuse et à la fois aux habitants de Saint-Laurent-du-Pont, parce que c'est les premiers concernés, parce qu'ils vivent vraiment sur le tronçon concerné. Et notre volonté, c'est d'associer... En grande partie via les amis du parc, d'associer les habitants dans la démarche. Et il nous paraissait évident de venir à la rencontre des habitants de Chartreuse avant de déposer le dossier, ne serait-ce que pour prendre en compte leurs premiers avis et pouvoir modifier notre candidature en fonction des retours qu'on avait pour que les discussions des habitants soient aussi retranscrites dans notre dossier de candidature.
Alors, en parlant de discussion, on a entendu, on l'écoutera, hein, puisque ça fait partie, c'est une partie de l'émission que de retranscrire effectivement un extrait de cet échange avec les habitants. Il y a notamment des inquiétudes exprimées par une habitante sur le fait que le label pourrait rapporter un surcroît de fréquentation et de pollution au cours d'eau. Alors là, la question vous est posée à vous tous, hein, invités de l'émission. Qu'est-ce que vous en pensez ? Fabien, après on prendra Marcel.
Comment réagir à cette réaction, c'est que effectivement sur l'aspect de l'affluence et du nombre de personnes que va pouvoir amener le label, je pense que c'est indéniable. Il y aura forcément des personnes qui seront intriguées, intéressées de venir découvrir ce qu'est une rivière sauvage. Donc
personnes ou des pêcheurs, Fabien?
Les deux, oui. Je pense. On aura des naturalistes, des gens qui aiment se balader au bord du cours d'eau. On a des randonnées qui sont très sympas pour ça. On a des parcours privés payants. On a des parcours réciprocitaires gérés par la PPMA qui sont déjà réputés et appréciés des pêcheurs. Il y aura probablement des gens qui viendront pour autre chose que la pêche. On a la chance d'avoir une rivière qui est gérée par une association qui gère le cours d'eau de façon patrimoniale, donc qui est aussi très active. On ne déverse pas de poisson, on n'émet pas de pollution génétique sur le poisson. On a une équipe de garde qui est relativement présente et dynamique, donc qui s'assure que le prélèvement, enfin, ou le braconnage ou tout acte de pollution soit vu dans les temps et relevé et au possible maîtrisé ou limité. Bon, c'est sûr qu'il faudra, voilà, il y a des choses qui vont changer. Il faut en être conscient avant pour savoir les accueillir, mieux les maîtriser. Maintenant, je pense que c'est aussi un label qui a permis d'éviter de nombreux projets hydroélectriques qui sont une forme de pollution pour le cours d'eau, puisque on va construire, on va bétonner, on va détourner potentiellement 80% du débit moyen du cours d'eau dans une période où c'est ce qui nous a, nous, interpellés tout de suite, où on voit bien les effets du dérèglement climatique. Donc des eaux qui se réchauffent par turbinage, voilà. Il y avait un tas d'autres pollutions qui nous semblent plus importantes que ce que pourra ramener le label, qui au contraire va ramener, je pense, dans l'esprit des gens une prise de conscience. Voilà, entendre parler certaines personnes de rivières sauvages, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore à faire. Et, donc je pense qu'il y a bien plus de bons que de moins bons à l'avenir, et on a la chance sur le territoire d'avoir des gens qui sont amoureux du cours d'eau et qui sont à l'initiative d'ailleurs de ce projet, et d'autres personnes qui visiblement sont qui sont aussi intéressées et amenées à travailler avec nous. Donc non, c'est ça m'inquiète pas plus que ça.
Adrien et pardon Marcel.
Je pense que bon, cette inquiétude est justifiée. Ce qui est normal dans un premier temps, on est inquiet par le risque de surfréquentation. Voilà. Moi, on a la chance d'avoir une région qui est magnifique. On a un écosystème qui est super. Ça serait dommage quand même de ne pas le partager avec d'autres personnes. Donc c'est sûr que bon, c'est à nous, après, de veiller à ce que ça se fasse, que cette transition se fasse petit à petit. Et puis bon, c'est sûr qu'on va rencontrer des problèmes, mais on est tous là pour en discuter et puis pour remédier à ces problèmes. Mais je crois que l'erreur, ce serait de se replier sur soi-même en disant, voilà, j'habite une région qui est super, ouais, mais moi, je veux la garder pour moi-même. Ça, c'est pas bien. Voilà, pour moi, c'est pas compatible, c'est pas possible. Il faut partager, bien entendu, ça va amener du monde. Comme le rappelait Fabien, grâce à, je dirais, à cette labellisation rivière sauvage, on a pu lutter contre de nombreux projets. Bon, ben ça, c'est positif. On a encore, en fait, faire participer tout le monde, que ce soit les gens qui habitent, les agriculteurs. Les agriculteurs aussi vont prendre conscience qu'il faut préserver ce patrimoine. Donc voilà, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Voilà, à nous de veiller à ce que ça se passe bien.
Adrien veut rajouter quelque chose ?
Oui, on a la chance d'être au cœur d'un parc naturel régional. Et on a dans ce parc, on a déjà des sites d'exception. Je pense comme ça, par exemple, au Cirque de Saint-Mesmes, aux Grottes des Échelles. Enfin voilà, c'est des sites qui sont vraiment exceptionnels et où on gère très bien la fréquentation. Et vraiment, je suis pas inquiet sur le Guémor, parce que évidemment qu'il va attirer un petit peu plus de monde. L'idée, c'est justement de maîtriser ça en prenant le temps d'y réfléchir, de comment s'organiser, quelle offre on va proposer. L'idée, c'est pas de faire un tourisme de masse en Chartreuse. À aucun moment, ça a été l'idée. Et vraiment, je suis persuadé que ça ne le sera pas. Mais plutôt un tourisme de qualité, de gens qui viennent chercher quelque chose d'authentique. Parce que les gens qui viennent en Chartreuse, ils vont pas à la Grande Motte. Donc ils viennent pour trouver des caractéristiques qui nous sont propres et qu'il faut absolument préserver. Si on les perd, bah, tout simplement, les gens ne viendront plus. Just an old-fashioned kiss. It gets me hot even in winter. How can I resist? Oh, how you tease me. A simple kiss upon my cheek. It makes my knees a little weaker. Your lips are like a spring morning dew on a red rose. Kiss me quick, kiss me hard, make it slow.
caress me in the park, smooch me up in the taxi, and those lingering hugs, you got me in paradise, and I'm feeling alone, so much love. And you give me those lips, don't ever stop, but don't stop to kiss me, queen. Kiss me hard, make it slow, make it soft, cheek to cheek. Just as long as you keep me close.
Alors, justement, on parlait des inquiétudes que les gens peuvent avoir par rapport à ce label. À l'inverse, qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Et la question s'adresse à nouveau à vous tous. En termes de tourisme, d'apport d'image peut-être par rapport au massif de la Chartreuse de...
Alors je crois que
ça, est-ce que ça ne concerne déjà que le tourisme pêche ?
Alors j'allais dire c'est sa vocation mais c'est pas forcément que pour ça. Je crois que la première idée de base du label c'est déjà que les habitants de Chartreuse prennent conscience de l'enjeu qu'il y a chez eux là juste au pied de leur maison. Je prends pour exemple, sur Saint-Pierre de Chartreuse, on a le projet, dans le cadre de la labellisation, de contenir, si ce n'est démanteler, une décharge communale qui est assez monstrueuse, qui est au bord du cours d'eau.
Qui est célèbre.
Qui est célèbre, qui est une condition pas sine qua non pour tenir le label, mais elle dégrade quand même très fortement la note. Et aujourd'hui, concrètement, sans le label, la décharge serait encore vivrait des jours paisibles et heureux au bord du cours d'eau. Là, ces jours sont comptés.
Ouais, si je devais rajouter, comment l'ont accueilli les pêcheurs ? En fait, déjà dans un premier temps, on l'a vu, c'était les projets d'hydroélectricité qui nous font un peu peur, même si on est bien conscient de la transition écologique. On a aussi pensé à la surfréquentation, c'est inévitable. Maintenant, on est sur un parcours qui génère déjà du pêcheur. Et puis, de toute façon, la limite naturelle elle-même imposera une limite dans la fréquentation. Par contre, c'est vrai que pour le bien que ça représente, dans le sens où on sait qu'on va pouvoir... Enfin, on travaille déjà et on va potentiellement voir un changement au niveau du tourisme. Ça va nous amener aussi à travailler sur de la réglementation pêche. C'est sûr que si on a de plus en plus de pêcheurs, il faudra qu'on revoie peut-être certaines choses. Si l'afflux touristique estival est plus important, on fera en sorte de gérer nos tours de garde pour essayer de sensibiliser les gens, que ce soit sur des déchets, que ce soit sur des petits barrages manuels, maison, que font les familles qui ne sont pas toujours conscients dans ces périodes qui peuvent être aussi un petit peu critiques pour les cours d'eau. Non, je pense que... Voilà. Je pense que c'est ça. On est suffisamment actif et amoureux pour prêter attention à toute forme de pollution qui pourrait intervenir. Je pense qu'on a déjà réussi quelque chose en sauvegardant la continuité du cours d'eau, les sédiments, du meilleur pour les invertébrés, pour les poissons, pour la qualité de l'eau aussi. Donc non, on est relativement satisfait dans l'ensemble.
Et serein.
Il faut que ces personnes soient rassurées. On veillera à tout ça.
Vous veillerez au grain. Voilà.
De toute façon, l'avenir est devant nous. On ne peut pas vivre. Bien sûr, il faut tenir compte du passé, du présent, mais il faut regarder devant soi.
Bien, Marcel. Alors, ce n'est pas encore le mot de la fin, hein, parce qu'on parlait de démarches participatives. Et justement, dans les actions que vous avez prévues à court terme, il y a quelques journées... participatives qui sont prévues avec notamment une journée le 18 mai avec le centre social, une journée le 5 juin avec le centre de loisirs, et puis une proposition de relevé participatif auprès des habitants. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de toutes ces initiatives et actions prévues ? Fabien est en co-encadrant ou encadrant ?
J'encadrerai les animations, oui. Donc, je proposerai, l'idée est simple, hein, c'est de... Enfin, dans le suivi participatif, c'est faire des analyses de qualité d'eau avec une mallette que la PPMA de Saint-Laurent-du-Pont acquiert maintenant depuis plus d'un an et utilise depuis plus d'un an. C'est une mallette qui nous permet de... Enfin non, un peu moins d'un an, en fait. Qui nous permet
d'être en veille,
de connaître les points sensibles en termes de pollution en aval des rejets, ou de pouvoir faire des analyses et d'avoir des relevés en cas de pollution directe. Oui, Marcel va vouloir s'exprimer.
Vas-y, continue.
L'idée, ça sera aussi de proposer des études, enfin des petites pêches des petites bêtes, pardon, ce qu'on appelle des IBGN, indice biotique global normalisé, donc sur l'idée de, l'identification et l'observation des invertébrés et des êtres vivants du cours d'eau, déterminer une qualité d'eau, une qualité du milieu, et faire ce suivi sur des années pour voir si on a un changement en bien, en positif, en négatif sur l'avenir. Donc les deux dates du
18 mai et du 5 juin
voilà, seront des IBGN simplifiés, la pêche des petites bêtes qu'on appelle...
D'accord. Ça, c'est ce que vous allez animer, vous, Fabien.
Voilà.
D'accord. Et alors, Marcel, concernant
les analyses physico-chimiques. Voilà. Donc, ces analyses vont nous permettre de suivre tout au cours de l'année la température de l'eau, la température de l'air, les quantités d'ammonium, de nitrate, de nitrite, de phosphate, de certains matériaux comme le cuivre, le zinc, le fer. Et à partir de là, on sera à même de constater si, comme on disait tout à l'heure, si surpopulation il y a, surfréquentation il y a, on sera à même de voir quel sera le degré de cette fréquentation.
D'accord. Donc ça consistera à remettre à des habitants volontaires cette petite mallette
Alors non, parce que ce sont des produits chimiques, ce sera désaccompagné.
Oui.
Voilà, il y aura un tuteur, on est deux à
dans faire... l'action de sensibilisation, voilà, vous les accompagnez
pour réaliser ces analyses, tout à fait.
D'accord. Donc les habitants prennent rendez-vous avec les bénévoles de la PPMA ? Ça va se passer comment ?
Voilà, donc on va fixer très prochainement les dates avec les personnes qui se sont déjà manifestées, qui ont déjà manifesté leur intérêt pour le suivi participatif. S'il y en a d'autres qui sont intéressés, ils seront les bienvenus, évidemment. Il va y avoir des relevés tout au long de l'année, du mois de mai jusqu'au mois de décembre. Donc, normalement, un par mois, déjà dans un premier temps, sauf pour le mois de juillet et août, où il y aura deux relevés. Pour voir, en période de forte fréquentation du massif, ouais. Au niveau touristique, et en plus, c'est des périodes de basses eaux, donc on va essayer d'avoir une analyse un petit peu plus fine sur la période estivale. Je voudrais dire aussi que ces relevés vont aussi avoir une dimension un petit peu moins froide que ce qui a été décrit par les analyses. Il va y avoir aussi des critères qui sont plus de l'ordre du ressenti, de la qualité paysagère, de l'ambiance sonore. Voilà, il y a aussi des choses, un petit peu...
De la fraîcheur ambiante.
Voilà, c'est ça. On prendra aussi la température qu'il fera ce jour-là.
Enfin, tout l'écosystème, que ce soit la ripisylve.
Vraiment, c'est une invitation pour ceux qui ont envie de venir se pencher sur la rivière et de la voir évoluer au fil de l'année.
Et alors, si je me mets à la place d'un chartroussin moyen qui serait intéressé à en savoir plus sur Rivière Sauvage, est-ce qu'il y a un site internet dédié sur lequel on peut s'informer et suivre ce qui se passe Allez, c'est Lucie qui s'y colle.
Donc on a, pour tout ce qui concerne le label et même toutes les rivières qui sont labellisées ou en cours de labellisation, il y a bien sûr le site du label Rivière Sauvage, qui est animé par une association, donc par l'association le Réseau des Rivières Sauvages de France et d'Europe. Et après, ben, ce sont les partenaires, donc le parc, les amis du parc et tous les autres partenaires impliqués, la PPMA qui relaye l'information sur les réseaux sociaux, en fait.
Ok. Oui, je vois Fabien qui fait un petit pouce, l'air de dire c'est super, Lucie, tu as bien parlé. Donc Fabien est d'accord. Adrien, pardon, est d'accord.
Oui, ouais, c'est parfait.
C'est parfait, super. Alors on va écouter, à moins que vous ayez d'autres choses, d'autres points que vous souhaitiez soulever sur cette question du label sauvage. Oui.
Moi, je voudrais juste rajouter pour moi, la partie essentielle du label, en tout cas en Chartreuse, c'est que, comme je vous ai dit, ça a mis du temps à aboutir. On est sur le point de le déposer. Mais c'est surtout une période qui nous a permis de réunir toutes les parties prenantes, de près ou de loin. Peut-être qu'on en a oublié une, ça ne sera pas fait exprès. Mais en tout cas, on a vraiment rencontré beaucoup de monde autour de ce projet. Que ce soit les communes, que ce soit les communautés de communes, des habitants, des associations de pêche, des industriels. Beaucoup de monde. Et aujourd'hui, vraiment, ça fait l'unanimité. Aujourd'hui, en Chartreuse, tout le monde sait qu'il n'est pas possible de toucher au guémar. Et pour moi, c'est déjà... rien que ça, c'est déjà... pour moi, c'est l'essentiel du label Rivière Sauvage. C'est qu'aujourd'hui, vraiment, tout le monde en a déjà conscience.
Donc, en clair, la mobilisation à la fois des associations concernées, des habitants, citoyens de Chartreuse... Qui sont...
On en parlait à la dernière émission, mais c'est ça, je pense que la première chose qui intervient avant toute action individuelle, c'est déjà de prendre conscience des bonnes choses comme des moins bonnes. Donc à partir de là, je pense que c'est déjà une réussite et c'est un point de départ. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment ensuite tout le cahier des charges et ce qui s'en suivra. L'avenir nous le dira.
Et une preuve de cette prise de conscience sur le territoire, c'est qu'aujourd'hui, il y a déjà des entreprises qui sont engagées à faire du mécénat, donc du mécénat territorial. Donc aujourd'hui, on a des entreprises du secteur qui ont décidé de donner de l'argent, avec des déductions fiscales évidemment, mais qui donnent cet argent pour le territoire, qui sont fléchées sur des actions qui sont prévues sur le programme d'action Rivière Sauvage pour le guémar. Donc non seulement ils font du mécénat, mais en plus ils le font pour le territoire. Et ça, je trouve aussi une belle preuve de la prise de conscience générale qu'il y a de la qualité du guémar.
Alors c'est super parce que du coup, on va passer un extrait de ce bistrot du jeudi 11 avril qui s'est déroulé à Saint-Laurent-du-Pont. Où effectivement, on a quelques participants qui étaient un peu dubitatifs sur les effets positifs de ce label Rivière Sauvage et qui, on l'espère en tout cas en vous écoutant, seront rassurés et feront partie des habitants qui se mobiliseront à la fois pour le guémar et pour le label Rivière Sauvage.
On lui a lancé l'invitation en tout cas.
Donc elle reviendra.
On a déjà beaucoup de fréquentations sur le gué. Déjà, c'était aussi un moyen de rendre visible cette activité-là.
Ben oui, mais quelque part, si plus on pêche, moins il y a de ressources, et après, il y a plus grand-chose, quoi.
Pas forcément, parce que ce temps de 10 ans va permettre aussi à tous les acteurs locaux de prendre conscience qu'il y a quelque chose d'exceptionnel là, juste à côté de nous.
Je ne suis pas de la région et j'y suis venue justement il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, j'ai découvert par hasard la balade du pont Saint-Bruno qui était réservée aux pêcheurs. Et
Alors, ce n'était pas...
Elle n'est pas sur les cartes touristiques.
C'est la balade des pêcheurs.
C'est la balade des pêcheurs. Elle est mentionnée avec des petits poissons bleus et elle n'est absolument pas sur les cartes touristiques de randonnée. Donc, elle est forcément réservée quand même quelque part aux pêcheurs.
Mais
maintenant,
partie,
elle s'est ouverte. Hein,
c'est une partie réservée à l'ONF où on est limité à 6 pêcheurs par jour sur cette partie-là, justement. C'est marqué partout le long de la rivière, justement, tous les 50 mètres.
C'est un des coins, justement, les moins pêcheurs.
Ouais, justement, c'est limité à 6 pêcheurs par jour. Il faut déverser une grosse somme pour y aller et c'est vraiment limité. Il n'y a quasiment pas de pêche sur la partie des gorges du Gué. Et la partie en dessous est toute ouverte, mais en nautile. Et cette partie-là est vraiment gérée par l'ONF.
Alors des panneaux, j'en ai pas vu, j'y vais souvent. Hein, quand
même. Ah, pourtant, sur tout le bord de la route, on les voit.
Ah, sur le bord de la route, ouais, non, mais moi je suis dans la gorge et les panneaux, il n'y en a pas. Donc en fait, ceux qui se gardent sur le parking, qui font comme moi, parce que sur la route.
Ah, il y en a en haut au parking aussi.
Il y en a tous les parkings,
ils sont vérifiés tous les ans.
Ouais, ben. Bref, donc moi j'ai pas vu, mais au final j'ai vu effectivement qu'il y avait des pêcheurs. Et ce tronçon-là, là en ce moment, mais c'est inabordable l'été. Hein. Avant on pouvait y aller n'importe quand, c'était hyper tranquille, il n'y avait personne. Ouais. Maintenant c'est la foule là-dedans.
Il y a plein de gens
donc, qui effectivement, effectivement c'est un coin qui est super sympa.
Ah bah c'est clair, hein.
Mais en même temps, il est devenu comme ça sans que la rivière soit labellisée.
Oui. Vous allez en Suisse, c'est la même chose. Et la Suisse met une amende. Et ben, il n'y a pas de papier en Suisse. Il n'y en a pas en Allemagne. Et c'est pour les mêmes raisons. Parce que vous avez une amende à la clé. Si on ne met pas un bâton derrière un humain, je suis désolée, c'est comme ça. C'est malheureux. C'est malheureux, mais c'est une réalité. Si vous n'y mettez pas un gendarme, et ben, de toute façon, votre guet, il est voué à la mort.
Quand il y a un label, de toute façon, il y a des contrôles régulièrement. Si ça se détériore, il y aura réaction, hein, forcément.
Mais
il y a déjà
la coercition n'est pas la réponse à tout. Ou alors, ça vous peut-être pour résorber les problèmes d'emploi en employant beaucoup de personnel pour ça. Par contre, le maintien du label, ça suppose que les acteurs qui sont concernés, c'est-à-dire les collectivités, les associations, les pêcheurs, qui sont toujours les pieds dans l'eau, donc ici, voilà, ça veut dire aussi qu'on réfléchisse ensemble à qu'est-ce qu'on met en place pour réguler des fréquentations anormales, par exemple, etc. Donc on a tout ce travail aussi, et le label est une incitation à travailler là-dessus. Alors peut-être faut-il qu'il y ait plus de, je sais pas, de passage du garde-pêche, peut-être, ou des gardes-parc, etc. Enfin bon, ou de personnel qui sont là pour faire de l'explication, de la pédagogie, dire ben non, là vous arrêtez, c'est pas possible, etc. Je crois que c'est ce travail-là, qui est celui d'ailleurs qu'on aime bien faire dans les parcs naturels régionaux, hein, où on a l'habitude de travailler avec les gens pour réguler, je dirais, en essayant d'éviter, de caporaliser toute la société. D'abord, on n'y arriverait pas, parce qu'il y a toujours des gens qui nous échappent, hein, de toute façon. Voilà, je pense que c'est un peu dans cet état d'esprit-là. Et l'intérêt du label, de mon point de vue, c'est aussi d'organiser les acteurs autour de ces nécessités.
Après, c'est la question de la gouvernance dont on parlait, Lucie, tout à l'heure. C'est qui est dans le comité qui gère tout ça, et du coup, qui se coordonne, et pour faire quoi pour...
Parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui est chargé de réguler ce territoire-là, hein, parce que c'est comme ça. Donc en fait, c'est aussi le Far West, hein, donc tout le monde y vient, et de ce point de vue-là. Le Far West,
parce qu'il y a déjà une dégradation sur ce tronçon,
C'est sûr.
Justement.
C'est pour ça qu'il est urgent que le label puisse être effectif. Je voulais dire, par exemple, que les pêcheurs, quand ils sont à leur activité de pêche, s'ils voient des personnes dans la rivière qui ont des comportements inappropriés, comme on dit maintenant, par exemple, marchent dans la rivière, ils font des remarques.
Ce serait quand même dommage de faire des remarques en tant que pêcheur, que le pêcheur peut aussi marcher dans la rivière.
Le pêcheur ne marche pas dans la rivière, le pêcheur...
Ça dépend des périodes.
Ça dépend des périodes, ils savent faire.
On reprend, là.
Demandez au pêcheur qui est là.
Ne demandez pas, vous, de nous faire des réflexions, nous, randonneurs, qui allons traverser le gué, parce qu'on va...
Non, mais l'idée, c'est pas de faire des réflexions à tout le monde. Il faut aussi que chacun garde ses libertés, et c'est aussi pour ça qu'on a pris le temps... de ces 10 années, c'est pour avoir beaucoup de monde autour de la table et que ce soit un travail collectif et nourri d'une multitude de points de vue et de gens qui ont envie d'œuvrer dans la même direction. Le but, c'est pas de mettre en conflit des usages.
C'est sûr, mais au final, ça revient un peu à ça quand même, parce que de toute façon, à un moment ou à un autre, il va y avoir affluence et on va tous
en souffrir. En tout cas, sur la promenade des poissons bleus, vous n'aurez pas d'affluence de pêcheurs. Vous n'aurez pas plus de 6 par jour. Et pour info, ils vendent à peu près entre 40 et 50 cartes par an sur ce parcours-là.
C'est
35 euros la journée.
Ouais, donc ça calme.
Est-ce qu'il y a des contrôles? Non.
Ah, si, bien sûr. Vous avez des gardes d'ONF qui
viennent. Bien leur boulot. Oui, oui, ils sont. Et de partout, que ce soit sur les contrôles de pêcheurs, parce qu'ils ont les baux de pêche sur
bien
ce secteur-là,
ouais.
Que ce soit aussi dans la réglementation des usages des espaces naturels.
Mais après, c'est pas parce que vous les voyez pas qu'ils sont pas là. Je vous rassure.
Après, peut-être Adrien n'en parle pas parce que s'il est modeste, mais je pense que les pêcheurs ici font un gros effort sur la gestion de l'écosystème au global. Il y a beaucoup de tronçons qui sont en no-kill, donc ça veut dire que vous ne prenez pas les poissons, vous les relâchez après. Et il y a une gestion vraiment patrimoniale des espèces et de la quantité de poissons qu'il y a dans le cours d'eau. C'est pas, ici, on n'est pas là pour remplir les frigos, quoi. Donc,
un humain, ça reste un humain.
Peut-être, certainement. Mais n'empêche que les.
J'en ai trouvé je ne sais pas combien dans le guet. Bon, voilà quoi. Alors, c'est sûr.
C'est vrai que c'est une. C'est plutôt ce qui est pas mal.
Des bouts de fil et des machins, je peux vous en ramener. J'en ai une collection à la maison, donc quelque part.
Après, de toute façon, tout usage apporte des conséquences, autant que les marcheurs, autant que ceux qui viennent prendre des photos, autant que voilà. Le tout, c'est voilà, que ce soit.
Bah oui, mais le problème du label, c'est que ça va forcément attirer des gens.
Après, je crois qu'il y a une erreur de ce point de vue-là. Le label, ça dépend ce qu'on en fait. Si on en fait un appât touristique, vous n'en savez rien. Non, pas du tout. Vous ne pouvez pas dire ça comme ça. Parce que sinon, on crée des impasses, si vous voulez.
Je vais vous donner un exemple. Un exemple vraiment concret de ce qui a déjà apporté le label. Sur le game mort de tout temps, je pense que Jean-Louis est bien placé pour en parler, il y a des projets de micro-centrales électriques sur le game mort avec qui apportent beaucoup d'impact sur le cours d'eau. Concrètement, aujourd'hui, si on n'avait pas eu cette démarche de labellisation, je peux vous dire qu'on aurait au moins 2 ou 3 micro-centrales sur le game mort. Et bien, rien que pour ça, déjà, je trouve que c'est une bonne chose. Et ça a été l'occasion de mettre un peu tout le territoire autour du gamer, de se dire, putain, on s'apprête peut-être à faire une bêtise, et si on réfléchissait autrement. Donc, parce qu'après, on est aussi conscient, comme disait Lucie, c'est pas une mise sous cloche du territoire, on est conscient qu'on a besoin d'énergie, qu'on a besoin d'énergie notamment renouvelable, et on sait que la rivière peut en produire. Alors, on a déjà ce barrage. Est-ce qu'il vaut mieux pas que ce barrage s'améliore et qu'il soit plus efficace pour fournir plus d'énergie plutôt que d'avoir un deuxième, troisième, une quatrième micro-centrale ? On peut se poser la question.
Ben, quelles sont les rivières labellisées déjà en France et s'il y a eu des retombées justement
Valserine qui a été labellisée, c'était la première et du coup ils reconduisent le label en ce moment. Je pense que le bilan est plutôt positif étant donné que le label dans sa deuxième édition sera coporté par plusieurs acteurs du territoire qui ne s'étaient pas engagés à porter le label la première fois. Après en termes de programme d'action,
En tout cas, ce label, ça permet de pouvoir engager des actions sur des zones où il est difficile de trouver des financements pour faire des actions. Comme l'a dit Lucie tout à l'heure, il y a des programmes qui existent pour restaurer ce qui dysfonctionne. Donc, par exemple, là, sur Saint-Laurent, en ce moment, on a des travaux sur le Guémor. Il y en a déjà eu pendant ces 2 dernières années où il y a eu 6 ou 7 barrages ou seuils qui ont été effacés, il y a des travaux d'élargissement du lit pour lutter contre les inondations. Voilà. Parce qu'on est sur un milieu qui est dégradé, on n'est pas sur le tronçon qui est labellisable. Et donc là, c'est possible d'avoir des financements pour faire des choses, pour essayer de renaturer, de bricoler ce qui a été un peu abîmé. Par contre, sur les parties qui fonctionnent, c'est compliqué de trouver des financements pour améliorer ou ne serait-ce qu'entretenir et éviter que ça se dégrade. Et c'est là que aussi le label prend un intérêt, nous semble intéressant, c'est que ça permet de pouvoir envisager certaines actions pour soit conserver cet état exceptionnel, voire même l'améliorer. On a parlé d'une note de 75 sur 100, on a même pour ambition de pouvoir l'améliorer aux alentours de 81. Et ça, c'est des actions qu'on va vous présenter tout à l'heure dans les grandes lignes. Alors, il y en a pas mal qui restent encore à construire au fil de nos discussions comme ce soir ou prochaines réunions. Et l'idée, c'est vraiment que ce label nous permette d'améliorer encore tout ça et enfin, d'augmenter le degré de sauvagitude du guémar.
Ça veut dire quelque chose, c'est que le label est octroyé pour 5 ans. Ça veut dire qu'on peut le perdre. Donc voilà, donc si les acteurs locaux souhaitent que le label soit reconduit, parce que le perdre quand même, c'est un petit peu, c'est pas très positif, à ce moment-là, il faut qu'ils mettent en œuvre les moyens nécessaires en termes de restauration ou de renaturation, ou en termes de régulation des usages qui permettent la reconduction du label. Donc voilà, donc ça veut dire aussi que la menace, entre guillemets, puisque vous parliez d'aspect contraignant, je dirais, bah, c'est perdre justement cette labellisation. Donc pour la maintenir, bah, il faut réguler le fonctionnement de la rivière, les fonctionnements sociaux qui vont avec. Donc il faut regarder ensemble de tout ça. Et je trouve qu'il y a une responsabilité collective, je dirais, qui fait qu'il y a beaucoup plus d'acteurs concernés dans la régulation et la remise en état qu'une responsabilité qui appartiendrait simplement aux gardes-pêche qui pourraient verbaliser. Alors on pourrait doubler le nombre de gardes-pêche, mais bon, est-ce qu'il faut des bêtes qui rentrent chez eux le soir, de temps en temps.
Ils sont mandatés que pour la pêche. Il y a quelqu'un qui jette un papier, il ne peut pas le verbaliser.
D'accord. En tous les cas, ça nous pose la question.
La personne est verbalisable, mais pas par le garde-pêche. Le garde-pêche, il a sa montée pour le...
Mon truc, hein.
Le renouvellement du label suppose que les acteurs s'organisent pour répondre au mieux, soit aux aspects physiques, soit aux aspects... d'usage, quoi.
Et c'est en ça que je trouve que le label est intéressant, sur notre territoire en tout cas, c'est que ça permet d'avoir des discussions comme ce soir, où bah, y a des gens qui pêchent, il y a des gens qui se promènent, la dernière fois on avait pas mal d'élus, et ça permet de mettre le sujet sur la table et puis d'avoir tout le monde autour de la table. C'est déjà pas mal. Sans le label, déjà ça n'existerait pas.
Et la dernière réunion qu'on a fait... Il y a 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus, il y avait par exemple la fédération de kayak, il y avait l'ONF qui entretient les berges et qui possède un certain nombre de parcelles. Il y avait les associations de protection de l'environnement comme la FRAPNA, LPO, etc. Il y avait tous les gens qui étaient là autour pour discuter de ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour gérer cette rivière et la préserver.
Il y a quand même un gros axe sur la sensibilisation qui est mise en place. Et si on y croit, c'est aussi comme ça qu'on peut faire changer les choses. Donc, mine de rien. Ouais.
Est-ce que ça prend en compte, par exemple, les ponts, comme le pont qu'on voit là sur l'image ?
Sur les ponts, on en parlera un petit peu plus tard, mais le label permet d'engager d'engager des actions, pas que sur la rivière en elle-même, pas que sur l'eau. C'est aussi les ponts qui l'engendrent, c'est aussi peut-être des choses sur les collines au-dessus, voire c'est sur l'ensemble du bassin versant. Je ne sais pas si la notion de bassin versant, ça parle à tout le monde, mais c'est vraiment... On peut engager des actions sur tout le long du bassin versant et même engager des actions sur la partie en aval du tronçon qui est labellisé pour améliorer aussi l'aval, parce que c'est super d'avoir une rivière sauvage en amont, mais si on a un truc dégueulasse en dessous. Donc on peut même améliorer l'aval grâce au label rivière sauvage pour tendre à la labellisation future de l'aval. On parle beaucoup des pêcheurs dans le label, mais en fait les poissons, pour nous c'est qu'un détail. C'est même pas pour les poissons qu'on veut plus de barrages ou qu'on veut le label. C'est juste qu'on veut une rivière en bon état. Si la rivière elle est en bon état, oui, les poissons, il y en aura à foison. Mais c'est surtout pour la rivière en elle-même qui est... Parce qu'elle rend service aux poissons, mais on verra plus tard qu'elle rend tellement d'autres services que ça, que ça vaut le coup de s'y pencher sérieusement pour autre chose que des poissons.
Et du coup, le syndicat, ça pose... C'est pas... Parce que c'est sur ce tronçon-là.
Ouais, complètement.
Ça pose pas de...
Alors, le syndicat, il a... Un industriel qui est même pas au bord du cours d'eau, qui est sur le cours d'eau. Donc effectivement, c'est des notions qui ont été prises en compte. Y a des choses qui ont déjà été améliorées au fil des discussions là, pendant ces dizaines d'années. Il y a encore des choses qui restent à améliorer. Et il y a des actions qui sont prévues autour de ce site, justement.
Saint-Pierre, c'est pas un problème, parce que c'est quand même...
Ben, je ne sais pas, il n'y a pas d'écoulement qui vont vers le gué.
Il y a beaucoup de travaux de, pour les l'assainissement au niveau des maisons, des collectivités en cours. Là, ou déjà fait.
Non, non, mais bon, je suis un peu au fait de ce qui s'est passé, ce qui se passe, ce qui se passait avant et ce qui se passe maintenant par rapport au rejet de, au raccord à l'assainissement, au réseau d'assainissement, notamment sur la, bah, la station de ski qui est de Saint-Pierre-Chartreuse. Et c'est souvent problématique sur les cours d'eau de montagne. Donc effectivement, avec des, une qualité d'eau qui a tendance à progresser suite au, à l'amélioration et à la mise aux normes de ces, ces installations-là.
Le maire de Saint-Pierre, il a quand même... il espère que le label, justement, impulsera une dynamique et fera que les travaux s'accéléreront un peu pour tout ce qui est assainissement. En fait.
Les 25 points qui manquent, c'est quoi les défauts
Les
25 points de pourcent là, qui manquent, c'est quoi
C'est par exemple la présence de renouilles du Japon qui est une plante invasive. Quelques points qui ont été localisés, qui ont été mesurés, donc on a le nombre de mètres exact de renouées du Japon qu'il y a. Donc ça, ça enlève par exemple tant de points. Le fait qu'il y ait un ou deux barrages, ça enlève tant de points. Le fait qu'il y ait tant de kilomètres de route au bord du cours d'eau, donc de route, ça veut dire aussi des travaux de soutènement de la route qui créent du coup un impact sur le cours d'eau, même si on peut comprendre, mais n'empêche que ça enlève un petit peu de sauvagitude au cours d'eau. Donc voilà, c'est tous ces, des points comme ça qui font qu'on n'a pas 100% de... Je crois qu'il y a là aussi, sur l'ensemble du bassin versant, il n'y a pas l'emprise du, des parties goudronnées, maçonnées, enfin il y a quelque chose comme ça. Pas forcément sur le cours d'eau, mais sur son bassin versant. Enfin, voilà. C'est un gros travail, cette grille de critères, il y a... Le stagiaire au parc en 2015 a travaillé une année complète juste pour remplir la grille.
L'état des lieux d'arrivée, à peu près 140 pages de données vraiment scientifiques pour remplir la grille.
Et c'est pas juste la rivière, c'est aussi l'écosystème, le milieu autour, hein, donc qui inclut les berges, les forêts, les routes, tout ce qui est autour. Et puis ensuite, on va mettre en place ce qu'on appelle des relevés participatifs sur l'état de la rivière et de ce tronçon qui va être labellisé. Donc on a défini 4 points, 3 points sur ce tronçon, sur les 12 km, et un point un peu plus en aval pour pouvoir faire des comparaisons. Et l'idée, c'est d'aller sur le terrain avec toutes les personnes qui auront envie de faire ça avec nous, une fois par mois, à partir du mois de mai, donc le mois prochain, jusqu'au mois de décembre. Une fois par mois, sauf en été, on va y aller deux fois en juillet-août, deux fois par mois. Parce qu'en été, on a un peu plus, relativement plus de fréquentation avec les touristes qui viennent ici en vacances. Et il y a aussi des chances qu'on ait un peu moins d'eau. Donc tout ça, ça va créer sur le milieu des pressions un peu accentuées. Donc pour ce qui est du contenu des relevés de ce qu'on va essayer de faire, on va faire différentes mesures. Avec une partie un petit peu technique, des mesures, on va dire scientifiques, quoi, de température, de volume d'eau, de vitesse, etc., de pH, de composition, avec des gens qui sont formés, avec des outils de mesure et de comparaison. On va faire aussi des comptages et de l'identification des micro-organismes et des petites bêtes, en gros, qu'on trouve sur les berges pour pouvoir savoir comment évolue le milieu et les organismes vivants. On va faire également des photographies et des observations plus sensibles, éventuellement plus poétiques, pour avoir quelque chose de pas juste froid et de données chiffrées, mais aussi pour avoir des ressentis sur l'ambiance, le paysage, etc. Tout ça avec l'accompagnement et l'encadrement technique, on va dire, des bénévoles des associations de pêche, mais ouvert à toutes les personnes qui auront envie de participer. Pas forcément toutes les fois de mai à décembre, une fois, deux fois, quatre fois, cinq fois, comme vous avez envie. Toutes les fois, c'est possible aussi, oui. Voilà, donc c'est aussi de ça dont on voulait vous parler ce soir, puisque vous êtes a priori intéressés par le milieu de la rivière. Dire voilà, vous pouvez venir avec nous et qu'on commence à propager ces actions de sensibilisation et d'information sur la rivière, ce patrimoine naturel qu'on a à côté de chez nous. Alors toutes ces données, après, on va les collecter, on va les rentrer dans des tableaux de suivi, etc. Ça rentre aussi dans le processus de labellisation, puisqu'on y parle, comme Lucie vous expliquait, on y parle de gouvernance, c'est-à-dire que ce n'est pas juste le parc ou une association de pêche qui se lance dans un processus tout seul. C'est vraiment, alors non seulement les acteurs du territoire, on a dit les associations de protection, les associations d'usagers, l'ONF, etc., mais c'est aussi tous les habitants, tous les citoyens qui ont envie de participer à titre individuel. Voilà. Voilà, voilà. Est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que vous avez des questions sur ces projets ? Alors après, il y a d'autres choses aussi dont on pourrait parler sur
le programme
d'action, du coup, après ?
Maintenant ou après ?
Maintenant.
Du coup, dans le cadre de la labellisation, il y a un programme d'action qui a été défini donc, suite à la rencontre des différents acteurs du territoire. Donc il y a une dizaine de fiches actions pour un programme qui durera 5 ans. Donc je peux vous citer quelques actions. Donc la première, je vous l'ai présentée tout à l'heure, c'est la restauration des continuités écologiques et sédimentaires, donc avec l'arasement des deux seuils. Donc ensuite, on a un projet donc encore à définir autour du site de la Pérelle, donc de l'industrie Vica, voilà. Donc là, il y a plus, dans un premier temps, une étude de faisabilité sur le seuil à faire pour voir justement son impact sur la continuité écologique et sédimentaire, voir si c'est nécessaire de l'araser également, mais également une réflexion au niveau de la qualité paysagère du site, en fait. Donc faire une étude et une interprétation du site pour mettre en valeur le patrimoine industriel, mais aussi enlever ce qui est dégradé et ce qu'on qualifie de point noir paysager. Donc voilà. Ensuite, on a un projet qui concerne la réhabilitation du site de l'ancienne décharge de Saint-Pierre de Chartreuse, donc route de Perquelin à Saint-Pierre, donc ancienne décharge communale, un projet d'ampleur, on va dire. Donc, qui est en plus une ancienne décharge communale surplombée de dépôts sauvages, surplombée de renouées du Japon.
Pour moi, c'est tout dans le même endroit.
Le combo gagnant.
En fait, on a 2000 mètres carrés à rayer
de parcelles, voilà. À peu près. En mètres cubes, on n'est pas encore bien au courant, mais.
2000 mètres carrés sur
50
mètres de
Japon. Sur 300 mètres de là. Non, 200 mètres de là. Voilà, gros projet qui est également porté par la Fédération de pêche de l'Isère. Ensuite, on a un projet de gestion des espèces invasives, mais on parle surtout de la renouée du Japon. Et donc, ce gros spot sur la décharge sera pris en compte dans le projet de la décharge, mais après, du coup, elle s'est disséminée en petits spots un peu plus bas dans la rivière. Donc, le but, c'est d'éradiquer avant que ça fasse des gros massifs. Donc ensuite, il y a aussi une fiche sur les interactions entre la gestion forestière et la rivière. Donc là, typiquement, on est sur une fiche action qui concerne le bassin versant complet et pas que le Guémort. Donc là, pareil, il y a plusieurs actions envisagées, mais on pense notamment au projet de desserte et de franchissement de cours d'eau qui prennent de plus en plus en compte la ressource en eau. Donc travailler avec eux sur leur projet et aussi sur la sensibilisation des propriétaires privés qui ont des captages sur leurs parcelles forestières et qui ne sont pas forcément au courant.
Merci à tous et à toutes. Cette quatrième émission des Rivières et des Hommes est terminée. On se retrouve très bientôt. Et bye bye.
À bientôt, merci.
À bientôt, merci.
Merci, à bientôt.
À bientôt.
Et voilà le mot de la fin pour Lucie.
let it rain a whole lot more, 'cause I got them deep river blues. Let the rain drive right on, let the waves sweep